Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
Collectivités locales, baisse de dotation de l'État et crise du prix de l'énergie. Comment les petites communes rurales font face? Nous recevons Nathalie Petrosi-Bédagnan, maire de Saint-Julien-en-Beaujolais. La crise climatique, la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Une polycrise qui met à mal dans le monde le développement durable. Des éléments de réponse en discussion avec François Boursier, historien conférencier. Dans le cadre du cycle de conférences d'un sujet d'actualité à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche. Et en conclusion, bilan carbone en viticulture avec l'Institut français de la vigne et du vin. Nous sommes en compagnie d'Émilie Adouard, chargée de mission évaluation environnement pour l'IFV. Calade, le journal. Guerre en Ukraine, un an déjà. Dans les rues de Kiev, je commence à croiser des gens avec des prothèses de bras et de jambes. L'invasion a déjà ses vétérans. Extrait d'un article d'Elisa Mignot pour le journal Le Monde. Olga et Sacha sont deux sœurs ukrainiennes. La première a 35 ans et est caviste à Paris, où elle habite depuis 7 ans. La seconde est âgée de 33 ans. Elle vit à Kiev avec ses parents et sa grand-mère. Les deux sœurs ukrainiennes racontent leur quotidien à M, le magazine du Monde. Cette semaine, Sacha se réjouit de la libération de prisonniers de mesures anticorruption, tandis qu'Olga se projette en juin en espérant que sa famille puisse venir en France. « Sacha, j'ai pris une décision. Jusqu'au mois d'avril, je ne bois plus d'alcool. Je me préserve. Depuis début janvier, je dors si peu. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Mon niveau d'angoisse est à son paroxysme. » Il faut me calmer, me régénérer. Je n'arrive plus à me projeter dans l'avenir. Et cela a des conséquences sur ma santé, mon quotidien, mes finances. Ça doit changer. Un an de guerre peut se transformer en deux, trois ou plus. Je dois l'accepter et ne rien attendre, seulement essayer de vivre plus calmement et sainement. Notre gouvernement se prépare pour le sommet Ukraine-Union européenne. C'est notre premier en tant que candidat à l'Union européenne, le 3 février. Il va y avoir des discussions sur les conditions d'adhésion de l'Ukraine. Pour être honnête, depuis 2014, ce sujet m'énerve. Moi, en tant que citoyenne ukrainienne, je suis tout à fait prête à être une citoyenne de l'Union européenne. Et nous sommes des millions, mais quelques centaines de députés pourris n'ont rien fait depuis notre révolution de 2014 pour lancer les réformes nécessaires contre la corruption et s'aligner sur les pays européens voisins. Ils se sont remplis les poches avec l'argent de l'État. Heureusement qu'on a Zelensky. Dans l'officiel du gouvernement, Volodymyr Zelensky, attendu au sommet de Bruxelles après ses visites à Londres et à Paris. Emmanuel Macron a partagé dans un tweet une vidéo dans laquelle on peut le voir remettre la Légion d'honneur à son homologue ukrainien. Et ces quelques mots, do peremore, do mieru, do yevrope, riard. Vers la victoire, vers la paix, vers l'Europe. Collectivités locales, baisse de dotation et crise du prix de l'énergie, comment les petites communes rurales font face? C'est la question que nous avons posée à la maire de Saint-Julien-en-Beaujolais, Nathalie Petrosi-Bédagnan, qui répond à notre question. Elle est jointe par téléphone.
Tout à fait. Donc en fait, on parle toujours de baisse de dotation de l'État, mais on se penche rarement sur la question. Enfin, on le sait, mais c'est vrai que là, on s'est un petit peu penché sur les chiffres et on s'est aperçu que depuis 10 ans, en fait, ces dotations qui constituent une grande part de nos recettes ont continué de baisser d'année en année. Et si justement on regarde un peu chiffres, on s'est aperçu grosso modo qu'en 2010, une petite commune comme nous avions environ 117 000 euros de subventions. Et en 2022, nous n'en avons plus que 54 000. Donc 120 000, 54 000, voilà, on a été divisé par deux. Ce qui est très lourd pour nos communes, sans que les impôts communaux n'aient été augmentés.
Donc on peut résumer un petit peu de ce qui s'est passé effectivement ces dernières années. D'abord, un faiblissement financier suite aux réformes fiscales, c'est bien ça. Avec toutefois des transferts de compétences notamment et sans compensation en quelque sorte des charges.
Voilà. En fait, il y a deux choses. On a les dotations qui sont là pour nous aider dans notre fonctionnement et dans nos projets. Ces dotations, donc, elles ont été divisées par deux en 10 ans. Et ensuite, on avait le levier notamment qui était la taxe d'habitation. Ce levier-là a disparu. C'est-à-dire que certes, nous sommes compensés. Mais la taxe d'habitation, c'était quelque chose qui était très lié à des projets. C'est-à-dire que nous, ça nous permettait d'augmenter la fiscalité si on avait un projet, par exemple, d'une nouvelle cantine. On pouvait augmenter la taxe d'habitation, ce qui permettait d'avoir des recettes supplémentaires. Et puis ensuite, on pouvait de nouveau la baisser. Et ce levier de la monter ou de la baisser, on ne l'a plus. Puisque maintenant, la taxe d'habitation, nous ne l'avons plus. Donc même si elle est compensée, on n'a plus ce levier de l'augmenter. Donc effectivement, on est inquiet parce que les dotations qu'on touchait, elles sont divisées. Et en plus, le seul levier qu'on avait, on l'a plus. Donc, pour nous, ça pose souci.
Alors même que, effectivement, une commune, on le sait, doit effectivement aménager.
Exactement. Il y a déjà tout l'entretien des bâtiments. Nous, notre salle des fêtes, elle a 30 ans. Voilà, la mairie, elle est aussi très vieille. Donc, on a tout ce qui est rénovation énergétique aussi sur l'école.
On va y venir,
oui. La rénovation, classique. J'allais dire, un rafraîchissement. Par exemple, nous, la salle des fêtes, il faut maintenant la peinture s'écaille. Elle a été très, très bien faite. Mais au bout de 30 ans, il y a des choses à faire. Les équipements de cuisine ne répondent plus aux nouveaux besoins. Et tout ça demande effectivement des financements. Et c'est vrai que à notre grand désespoir entre guillemets, on est obligé de renoncer. Par exemple, nous on souhaitait faire une petite extension de la salle des fêtes pour dynamiser, accueillir notre vie associative qui est de plus en plus demandeuse, et on ne pourra pas la faire parce que on a d'autres travaux plus urgents à faire.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, le grand enjeu de cette fameuse transition énergétique, nous vivons une crise énergétique et là aussi, il faut faire des économies.
Exactement. Donc, alors le côté effectivement positif, en tout cas pour nous, petites communes, c'est que nous avons été relativement protégés par les dispositifs mis en place par l'État, notamment le bouclier tarifaire. Donc au niveau de la hausse du prix d'électricité, une petite commune comme la nôtre, pour l'instant, nous sommes assez protégés. Hormis, par contre, sur un des sites, l'école, où là, notre facture va être multipliée déjà par 2 ou 3, c'est ce qui nous a été annoncé. Et ensuite, on a tout l'enjeu, effectivement, de la rénovation énergétique, avec des bâtiments, vous pensez bien que ce soit l'école, la salle des fêtes, comme toutes les autres communes rurales, qui ne sont plus aux normes, qu'il va falloir rénover. Ça coûte très très cher.
Ça se fait petit à petit alors
Alors déjà, dans le quotidien, on fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que on met le chauffage un peu plus tard, on demande aux gens de mettre des pulls, et ensuite on le fait effectivement progressivement. Donc par exemple, pour vous donner une idée, ça va très très vite. Nous, on doit refaire juste notre salle de garderie et 2 classes. On est déjà à plus de 400 000 euros pour changer... faire une isolation des murs, changer les fenêtres et faire une isolation du toit. Pour quelque chose de basique, j'allais dire, qui va par contre nous faire des grosses économies d'énergie, en termes d'énergie. Ça va très très vite, parce que les matériaux sont chers et parce que c'est une technique particulière. Donc une commune rurale comme nous, on va faire l'école, la salle des fêtes sera retardée, et puis on a encore la mairie, on a encore plein de choses à faire.
C'était Nathalie Petrosi-Bédagnan, maire de Saint-Julien en Beaujolais, qui répondait à notre question concernant les collectivités locales, de la baisse de dotation et la crise du prix de l'énergie. La crise climatique, la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Guerre, crise climat, pandémie, une polycrise qui est en train de mettre à mal la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable. Des éléments de réponse en discussion avec François Boursier, historien conférencier, dans le cadre du cycle de conférences du mois à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche. Un jeudi du mois.
Oui, très contraignant et en même temps en plein bouleversement. Très contraignant parce que on a la guerre, on a la crise climatique, on a l'épidémie de Covid-19 qui apparemment apparaît maîtrisée, réglée, mais dont on ne sait pas comment elle nous est arrivée, d'où elle est venue et comment ça s'est déclenché, et donc ouvre des inquiétudes extrêmement importantes. Et ces trois crises qui font une polycrise se passe à un moment où nous avons tourné la page de la mondialisation et nous entrons dans ce que certains appellent une démondialisation ou une fragmentation du monde ou une mondialisation entre amis, avec des stratégies de protectionnisme qui laissent entrevoir une véritable guerre commerciale.
Et qui fragilise les équilibres économiques globaux.
Alors, qui fragilise les équilibres globaux. La mondialisation, avec ses aspects positifs et négatifs, la mondialisation qui, par exemple, avait fait sortir de la pauvreté des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards de gens en Asie, en Afrique et en Amérique latine, s'arrêtant, on risque de voir revenir la pauvreté, la faim, la famine, la faim dans le monde, qui n'était quasiment plus une préoccupation parce qu'on avait trouvé les réponses qu'il fallait pour l'essentiel de la population à l'échelle planétaire. Elle est revenue là depuis quelques mois.
Vous faites référence au basculement effectivement de la croissance des BRICS, ce qu'on avait appelé le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.
Ces BRICS sur lesquels on projetait des espérances, entre guillemets, d'un moteur de croissance phénoménal, les BRICS ont disparu du champ de l'action. En ce moment même, il y a le sommet de Davos, là où il y a 10 ans, le Brésil de Lula, l'Afrique du Sud de Mandela, l'Inde, la Chine étaient en première ligne et annonçaient des développements fracassants de l'économie mondiale, sont aujourd'hui aux abonnés absents.
François Boursier, historien et conférencier du Fait du Mois, un jeudi de chaque mois, dans le cadre du cycle de conférences d'un sujet d'actualité à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à la Cantalade à Villefranche. La conférence se déroule à 18h30. Le thème de ce nouveau rendez-vous, ce jeudi, sujet d'actualité, la crise du travail en France, aujourd'hui, demain. Bilan carbone en viticulture avec l'Institut français de la vigne et du vin. Avec nous, Émilie Adouard, elle est chargée de mission évaluation environnement pour l'IFV et nous lui avons posé la question, c'est quoi le bilan carbone en viticulture ?
Alors c'est un outil de calcul informatique où on saisit des données de pratiques viticoles. On va voir le viticulteur qui nous explique comment il fait ses pratiques au fur et à mesure de l'année. Et puis l'outil va transformer ces données en quantité d'intrants utilisés. Donc les intrants, ce sont le carburant, les engrais, les produits phytosanitaires, les semences pour l'enherbement interrang, tout ce que le viticulteur va mettre sur ses parcelles. Tous ces intrants ont une empreinte carbone, donc on va prendre en compte les émissions qui ont été générées lors de leur fabrication. Et puis, on va prendre en compte aussi les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées lorsque certains intrants sont consommés sur la parcelle. Donc, le carburant, quand il est consommé, il génère du CO2, du dioxyde de carbone dans l'air sur la parcelle. Et puis, les engrais aussi azotés génèrent des émissions de protoxyde d'azote, un gaz qui est assez puissant au niveau changement climatique. Et donc, on prend en compte aussi ces émissions directes de protoxyde d'azote.
Alors, comment vous les récupérez ?
Oui, alors en fait, on se base, nous, sur des données de référence qui ont été acquises par toute la communauté scientifique et qui sont concentrées notamment dans une base de données de l'ADEME. Donc, c'est une base de données reconnue qui est utilisée par tout un tas d'acteurs qui font ce type de calcul. Et voilà, donc nous, on ne fait pas de mesure de gaz à la parcelle ou quoi. On se réfère à des données scientifiques qui ont été acquises auparavant et on fait
une estimation
modo,
par rapport aux données.
Finalement, c'est grosso modo une multiplication entre les quantités d'intrants et les données de référence que l'on a auprès de l'ADEME qui disent voilà, 1 kg de carburant, ça émet 3,5 kg équivalent CO2 par kilo.
Alors, et donc, j'imagine qu'il y a des échelles à ne pas dépasser, par exemple.
Oui, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et en fait, justement, on est au début de la démarche en viticulture. Les autres productions, élevage, grande culture, ont plus de recul là-dessus, donc ont plus facilement des moyennes pour dire on est bon ou pas bon. Et du coup, avec l'outil de calcul qu'on a développé, on espère accumuler beaucoup, assez rapidement de la donnée pour avoir plein de diagnostics réalisés et petit à petit pouvoir donner un feedback au viticulteur et lui dire votre résultat, il est dans la moyenne, il est dans la fourchette haute ou basse. Mais actuellement, comme on a encore trop peu de références, on a du mal à donner ce feedback.
Le bilan carbone en viticulture, il s'agit d'évaluer les impacts de la viticulture sur l'environnement, air, sol, eau et ressources consommées, afin d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre, les GES, à l'échelle de la parcelle et de définir les pratiques les plus émettrices.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.